Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Didier Blé.
Excellent début de soirée à tous. Merci de nous retrouver. Les titres à la une de l'actualité. Élections sénatoriales 2023, les résultats sont connus depuis samedi. Nouvelle razzia du RHDP avec 56 sénateurs. Quelle lecture peut-on faire de ces résultats? Dans cette édition, l'analyse du professeur Arthur Banga, enseignant d'histoire et analyste politique. Sénatorial toujours, la défaite de Jeannot Ahoussou-Kouadio, l'actuel président du Sénat ivoirien, fait débat au sein des populations et des politiques. Comment interpréter cette défaite? La réaction d'un autre observateur de la scène nationale, Geoffroy Julien Kouaou. Hors de chez nous en RDC à Goma, tension au sujet de l'enterrement de victimes de la répression du 30 août 2023. Et puis nous terminerons cette édition avec un dossier d'actualité, dossier relatif à un atelier de validation du plan de travail pour une mise en service d'une ligne autobus entre Yopougon et Bingerville avec Emmanuel Amani. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Élections sénatoriales 2023. Les résultats ont été publiés le samedi 16 septembre par la Commission électorale indépendante. Le RHDP, le parti au pouvoir, se taille la part du lion avec 56 sénateurs contre 6 pour le PDCI-RDA et 2 pour une liste indépendante. Quelle lecture peut-on faire de ces résultats et quelle signification pour la présidentielle de 2025? Élément de réponse avec professeur Arthur Banga, enseignant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny.
Bon, sans surprise, en fait, les résultats des sénatoriales dépendent eux-mêmes des résultats des locales, donc des municipalités, des régionales. Donc, on sait à peu près les forces qui doivent se dégager de ces élections. Donc, sans surprise, le RHDP, dans la dynamique des locales, a pu avoir 56 élus, ce qui montre aujourd'hui la domination, ou j'ai envie de dire l'ultra-domination du RHDP dans les joutes électorales. On voit aussi la résistance, malgré tout, du PDCRDA, qui, même si est passé d'une dizaine de sénateurs à 6 sénateurs aujourd'hui, prouve quand même que c'est un parti qui résiste relativement bien et qui peut s'en sortir, être le fer de lance de l'opposition. Après, les indépendants sont présents aussi et donc, en gros, les sénatoriales ont conservé la dynamique des élections locales avec une forte domination du RHDP.
Par rapport aux perspectives pour la présidentielle, les sénatoriales sont pratiquement les dernières élections avant 2025. Est-ce qu'on peut présager déjà, au vu de ces résultats, de ce qui va advenir de ces élections?
Non, je pense que le RHDP est en pole position. Pourquoi? Parce que quand on regarde les sénatoriales et les locales, il y a une ultra-domination. Mais attention, c'est à peu près un tiers du corps électoral qui s'est mobilisé. Donc il reste encore deux bons tiers qui peuvent faire la différence en 2025. On ne sait pas où ces deux tiers-là vont voter, avec en plus les nouveaux inscrits qui viendront. Et donc, ça serait un autre match.
Voilà, c'était professeur Arthur Banga, analyste politique interrogé par Jean-Claude Comé. Sénatorial toujours, un revers à la défaite du président du Sénat ivoirien, la deuxième chambre du Parlement. Candidat du RHDP dans la région du Bélier, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a été battu par le PDCI-RDA. Comment interpréter cette défaite? L'analyse de Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique.
Oui, c'était une défaite prévisible. En ce sens que, n'oubliez pas qu'il y a de cela à peine deux semaines, M. Ahoussou Jeannot avait perdu l'élection des conseillers régionaux dans la même région. Il est donc évident qu'il n'avait pas une majorité consistante. Certes, il est un cadre du RHDP, mais les divisions internes du RHDP dans le Bélier étaient connues de tous. Et ces divisions se sont malheureusement traduites dans les urnes. Et aujourd'hui, M. Ahoussou Jeannot, qui est le président du Sénat, a été battu. C'est la plus grande information relativement à ces élections sénatoriales.
Vous dites les divisions du RHDP dans la région.
Oui, les divisions, parce que quand on fait un décompte des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Bélier, il y avait un léger avantage pour le RHDP. Donc, normalement, il devait sortir vainqueur de cette élection. S'il a été battu, c'est la preuve que certains élus RHDP ne lui ont pas accordé leur suffrage.
Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique, interrogé par Soro Adams. Dans le Tonkpi, le RHDP victorieux du scrutin du 16 septembre dernier par la voix du maire de la commune de Mans, Aboubakar Fofana, se réjouit du bon déroulement de la fin de ce cycle électoral. Les échos avec Stéphane Adams.
C'est la liste RHDP qui bénéficie du vote sénatorial de la majorité des électeurs, soit 305 voix sur 442 votants, équivalent à un pourcentage de 90,26. Aboubakar Fofana, électeur RHDP, maire de la commune de Mans, salue leur victoire en ces termes.
Je suis très très heureux de voir que ces différents scrutins dans notre région se déroulent dans un climat apaisé. D'où j'ai retiré de cela la maturité de nos populations, la maturité en tout cas des hommes politiques. On est tous des différents bords, on est candidats les uns contre les autres, mais on reste des frères. Et ça, c'est ce que moi je retiens de cette journée électorale.
Le maire de la commune de Mans, Aboubakar Fofana, a toutefois tenu à faire ce rappel aux Mannois.
Notre liste s'appelait Rassemblement et Solidarité. Donc c'est de continuer le rassemblement. On a un idéal commun, on a un bien commun, on a une vision commune, c'est le développement de Mans, tous autour de Mans. Et c'est pour ça que nous continuons le développement de Mans ensemble. Parce que les besoins sont énormes. Il faut continuer les ouvertures de voies, il faut continuer les reprofilages, il faut permettre l'accès des véhicules dans plusieurs quartiers à Mans. Il faut continuer les infrastructures scolaires, aussi continuer les infrastructures de santé. Donc nous, on va continuer le travail. Mais la priorité, comme je l'ai dit pendant mon mandat, ce sera les femmes, les jeunes et les infrastructures, bien entendu, viendront pour clôturer ces priorités-là.
Rappelons que le scrutin sénatorial était placé par le parti sous le signe du développement, la réconciliation, la solidarité et le rassemblement. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Du Grand Ouest, retrouvons-nous au centre de la Côte d'Ivoire et pendant ce temps-là, récemment élu à la tête de la commune de Yamsoukro pour le compte du PDC-IRDA. Le maire Kwasi Kwame Patrice alias KKP a animé le samedi 16 septembre un point de presse au siège de son parti à Yamsoukro. Il a abordé au cours de cette rencontre certains grands chantiers de son futur quinquennat. Il a également entrepris d'accroître les fonds propres de la mairie tout en ayant recours aux investisseurs privés pour réaliser ses ambitions. Témoin pour Radio de la Paix, Émile Yao.
Le maire Kwasi Kwame Patrice alias KKP a de prime abord remercié l'ensemble des populations de Yamoussoukro pour leur mobilisation en sa faveur lors des municipales du samedi 2 septembre dernier, non sans rendre hommage au président de son parti, Feu Henri Konan Bédié, pour la confiance placée en lui.
J'ai une pensée pour le président Henri Konan Bédié, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous lui avions fait cette promesse de ramener non seulement les postes de maire au PDCI, mais également les deux postes de sénateur à Yamoussoukro. C'est chose faite. Et symboliquement, nous partirons à Daoukro pour lui dire, Monsieur le Président, mission accomplie.
Les collectivités, selon le maire de Yamoussoukro, ne sauraient que vivre des subventions de l'État vu leur modicité. C'est pourquoi il se propose d'accroître les recettes municipales.
Nous avons des voyous qui sont dans cette commune, qui collectent à la place de la mairie des recettes municipales. Nous allons nous en occuper rapidement pour que ces recettes municipales reviennent dans les caisses de la mairie. Ensuite, pour tout ce qui concerne les infrastructures à réaliser, nous allons avoir recours à des investisseurs privés. Nous allons donc signer des contrats en BOT avec eux pour leur donner une concession sur un certain nombre d'années. Ils feront l'investissement, amortiront leur investissement et les marchés reviendront à la mairie.
À ce sujet, les nouvelles semblent déjà très bonnes, a fait savoir le premier magistrat de la commune.
Nous avons déjà identifié des partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour la construction de 5 marchés au niveau de Yamoussoukro. Nous avons également un partenaire qui est prêt à nous accompagner pour la construction d'un abattoir digne de ce nom.
Un travail d'organisation sera essentiellement fait dans un premier temps, y compris au niveau de la gouvernance de la mairie, a indiqué le maire KKP. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, était face aux jeunes le mardi 12 septembre dernier. C'était à l'occasion de la première journée de célébration du 20e anniversaire de l'Intelligent d'Abidjan à l'Université de Cocody. Linda Ballier.
À l'entame de sa communication, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a invité les jeunes à éviter l'immigration irrégulière pour se tourner plutôt vers l'entrepreneuriat. Mais pour lui, la stratégie qui pourrait freiner ce fléau est la suivante.
La première des choses à faire, c'est la sensibilisation en vue donc d'un changement de mentalité. Ensuite, il faut lutter sans merci contre les réseaux clandestins qui organisent donc les filières mafieuses pour faire partie donc ces jeunes. Et puis effectivement, il faut continuer à investir massivement à la jeunesse, dans l'éducation, dans l'emploi, créer les conditions pour que des jeunes qui veulent se battre puissent trouver sur le sol ivoirien des opportunités pour s'épanouir. Ça, ils sont obligés donc de partir.
Toutefois, selon le ministre, pour améliorer les conditions de vie des jeunes, plusieurs perspectives dans le cadre de l'année de la jeunesse sont en vue. Écoutons tout Touré Mamadou.
Nous allons recruter 20 000 bénévoles pour les préparatifs de la CAN. Il y a déjà 10 000 volontaires qui ont été recrutés. Nous allons lancer d'ici 2 semaines la carte jeune pour 100 000 jeunes de notre pays. Avec cette carte jeune, ce sont des réductions allant jusqu'à 60% que les jeunes peuvent avoir dans tous les secteurs d'activité sur différents produits. Près de 30 000 jeunes dans les zones frontalières, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vont voir le début de leurs activités dès la fin de ce mois.
Notons que d'ici 2025, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv vise à impacter plus d'un million de jeunes, d'après le ministre Touré Mamadou.
En poursuivant cette édition à présent, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans l'élan de booster l'intégration de la question de genre dans le budget public, a initié en partenariat avec le PAGEF la formation des formateurs en budgétisation sensible au genre, capable de former justement à leur tour d'autres structures du secteur privé et public en la matière. Et cela concerne une 60aine de formateurs. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Mata Touré.
Si l'on part du principe que la budgétisation sensible au genre est désormais incontournable, une exigence même, d'une part pour les partenaires au développement, mais surtout dans le processus de budgétisation des États. On comprend alors son intégration dans les ministères techniques qui, tour à tour, forment à tour de rôle leurs formateurs via le projet d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF, dirigé par le professeur Bamba Lambert.
Peut-on réussir le développement de ces pays-là en mettant plus d'une moitié de la population de côté? C'est pas possible. Connaissant les traditions dans nos pays, les femmes sont moins impliquées dans les processus décisionnels. Également, elles sont défavorisées dans l'allocation des ressources. Donc, c'est des éléments qu'il faut absolument arriver à corriger si on veut réussir ce qu'on appelle le développement durable.
Cette fois, c'est au tour du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de voir former une 60aine de ses formateurs. Florence Tano en est la directrice de l'équité et du genre.
Aujourd'hui, les femmes ont fait preuve de grandes connaissances, elles ont fait preuve de leur dévouement, de leur participation. Beaucoup de femmes leaders émergent en Côte d'Ivoire. Il était temps que nous bénéficions du budget sensible genre pour que dans notre pays, on ait dans tous les ministères un budget sensible genre.
Le pool de formateurs sera installé ultérieurement pour amener la Côte d'Ivoire sur les parvis de l'égalité du genre où très peu de pays africains siègent selon les représentants du ministère.
Intéressons-nous à la rentrée scolaire, justement, qui est très timide une semaine après le lancement officiel. Le taux d'inscription s'élève à autour de 50% dans les grandes agglomérations comme Abidjan. Dans la ville de l'intérieur, les salles de classe sont vides. Eh bien, les difficultés sont nombreuses et se rencontrent à tous les niveaux. Selon les explications de Ekoun Kouassi, je rappelle qu'il est secrétaire général national du CINESI. Le CINESI, c'est le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire.
Au niveau de l'administration, ils éprouvent quand même quelques difficultés à démarrer effectivement l'année scolaire. Il se trouve que l'année scolaire passée, aucun chef de service, aucun établissement scolaire n'a pu avoir sa dotation en COGES et donc ils ont travaillé à crédit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés pour s'approvisionner en papier RAM, encre et autres consommables informatiques. Quant à nous, parents d'élèves, où trouver les finances à cette période avec nos nombreux enfants pour pouvoir les inscrire. L'autre problème qui s'est ajouté, c'est qu'il y a la CENI qui est un facteur nouveau pour l'inscription. Les enfants, hormis les grandes villes, étaient en campagne, ils sont arrivés et ils se voient devant le fait accompli de présenter la carte CENI avant de pouvoir s'inscrire. Ils sont plutôt dans les bureaux d'enrôlement, les établissements sont quasi vides à l'intérieur du pays. Hein. C'est peut-être à Abidjan qu'il y a 50% du taux d'inscription. Les élèves sont inscrits en ligne, mais les salles de classe sont malheureusement vides. Parce que tout ce qui doit suivre comme matériel pédagogique pour l'enfant, vraiment le parent, pour l'heure, n'a pas encore les moyens. Quand on remonte dans les villes de l'intérieur, si près de 600 élèves, ils sont autour de 260 inscrits en ligne, mais dans les salles de classe, rien.
Vous écoutez à l'instant Ekoun Kouassi, secrétaire général national du syndicat national des enseignants du second degré. Dans la région du Bounkani, une crise de confiance entre les parents d'élèves et les élèves affecte le démarrage effectif de l'école les premiers jours de la rentrée scolaire. Les parents attendent la liste des fournitures scolaires dûment signées par l'école avant de s'engager dans l'achat des manuels scolaires. Constat fait par Jérôme Kouassi.
Dans une librairie de la ville de Bouna, le propriétaire des lieux, pensif face à deux frères élèves, venu plutôt se renseigner sur les prix.
L'engouement en lui-même n'est pas encore ça, puisque les parents ne viennent pas. Bamba Abdul Rachid, en troisième. Mon père veut venir acheter les livres lui-même, quoi.
Mais pourquoi il préfère venir lui-même?
Il croit que quand on nous donne l'argent, là, on s'en fait autre chose, ça.
Bamba Mohamed fait une classe de CM2. Les parents ne nous font plus confiance.
Le constat de notre libraire, l'un des plus anciens de la ville.
Madi Adi, librairie Pater au marché de Bouna. C'est les parents qui viennent dans un premier temps avec la liste des fournitures, souvent. Ils prennent le prix, ils s'en vont se renseigner et puis ils reviennent acheter.
Ce que font les enfants avec l'argent des inscriptions et de l'achat des fournitures scolaire. Nous sommes à 20 km de la ville de Bouna.
Keïf Léa Mathias, directeur à l'EPP Panzerani. Il prend cet argent-là pour aller acheter le portable, la chaussure basket, le pantalon jean ou bien la chemise qui coûte 6 000-8 000 francs.
Un peu plus loin, à 30 km, à Bouko, entre Bouna et Dropo, où les parents d'élèves nous renseignent mieux.
Prince Diko Kaye de Lyon. On peut les donner, il part au marché, il n'achète pas des fournitures, il part acheter des téléphones Android ou bien des téléphones qui sont plus chers.
Comme aux pompiers. Donc voilà pourquoi nous, on a préféré attendre. Les professeurs vont nous délivrer les listes des fournitures sans donner l'argent à l'enfant. Donc demain, va te revenir avec crédit encore pour dire que non, c'est insuffisant.
Voilà un peu les problèmes pour lesquels les parents eux-mêmes ont décidé de prendre par la main les saisons de leurs enfants.
Selon nos renseignements, n'eût été les inscriptions faites en ligne avec les parents, de nombreux enfants auraient abandonné l'école à cause de cette attitude. Jérôme Kwasi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
L'actualité africaine en RDC à Goma, tension au sujet de l'enterrement de victimes de la répression du 30 août 2023. Le gouvernement du Nord Kivu, province, le gouvernorat du Nord Kivu, province située à l'est, a demandé à la population d'observer une attitude de prière pour un enterrement digne des illustres disparus dans leur dernière demeure. Il y a près de 3 semaines, une intervention militaire contre les membres de la secte foi naturelle judaïque et messianique vers les Nations Unies qui s'étaient réunies pour demander le départ de la mission de l'ONU dans le pays, MONUSCO, avait fait plus d'une cinquantaine de morts, des victimes dont les familles réclament depuis les corps. Et puis, notre dossier d'actualité à présent, les travaux de mise en service d'une ligne autobus entre Yopougon et Bingerville débutent en janvier 2024 pour une durée de 36 mois. C'est ce qu'on retient de cet atelier de validation initié par le ministère des Transports dans le cadre du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, un dossier présenté par Emmanuel Amani.
La mise en circulation d'un service rapide autobus dénommé Bus Rapid Transfer, BRT, pour la ligne Bingerville-Yopougon, telle est la composante majeure du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA. A cet effet, un atelier de validation du plan de travail et du budget annuel révisé s'est tenu ce mercredi 13 septembre à Cocody. Réunis entre autres autour de la table de discussion, les coordonnateurs du projet, le représentant du district d'Abidjan et celui du ministère du budget et du portefeuille de l'État. Pligeya Ali Koulibaly, coordonnateur adjoint du PMUA, nous donne l'état d'avancement de la réalisation du projet.
À ce jour, on peut dire que nous avançons allègrement vers l'opérationnalisation de la composante principale du projet, donc qui est la construction de la ligne de BRT. Nous venons de lancer l'appel d'offres pour sélectionner l'entreprise qui va réaliser les travaux du BRT.
Il nous donne également le délai d'exécution et d'exploitation.
Nous prévoyons le démarrage en 2024 pour environ 36 mois. Donc 3 ans, donc on sera autour de 2027, la mise en exploitation de la ligne de BRT.
Concernant les implications et le coût du projet, voici les précisions qu'il apporte.
En termes de prévision, nous sommes autour d'environ 200 milliards de francs CFA pour les infrastructures du BRT, les stations, les voies, les ponts à construire, les 2 dépôts à construire, donc les 2 dépôts d'autobus, tout ce qui est travaux d'amener de l'électricité autour, donc nous sommes autour de 200 milliards de francs CFA.
200 milliards de francs CFA, un montant prévisionnel, d'où cet atelier de validation du plan de travail et du budget révisé PTBA 2023.
Le BRT, c'est un montant énorme. C'est l'une des raisons pour la révision du PTBA, c'est vraiment d'arriver à maîtriser le coût et également à prendre en compte les autres activités qui avaient à un moment donné été un peu mises en veille.
Notons que le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, c'est 4 activités dont la principale reste la mise en circulation d'un service rapide d'autobus dénommé Bus Rapid Transfer, BRT, pour la ligne Bingerville-Yopougon, cofinancé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé.
C'est bien sur ce dossier que nous refermons ce 18h, le rappel des titres. Élection sénatoriale, les résultats sont connus depuis samedi. On a dit nouvelle razzia du RHDP avec 56 sénateurs. Vous avez suivi l'analyse du professeur Arthur Banga dans cette édition. circuit sénatorial toujours. La défaite de l'actuel président du Sénat fait débat au sein des populations. Défaite interprétée par Geoffroy Julien Kouaou, que vous avez suivi. Depuis en RDC à Goma, tension au sujet de l'enterrement de victimes de la répression du 30 août 2023. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Dans quelques secondes, retrouvez Jean-Claude Comé pour Economia. Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir.